Vous êtes sur RTL.
Place à l'info tout de suite, RTL Soir, Vincent Parizeau. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, c'est parti jusqu'à 20h avec à la une le chemin pour éviter le confinement. Suivez la flèche, l'exécutif persiste et signe. Il assure que ce chemin existe. Le porte-parole du gouvernement précise même que l'épidémie est sur un plateau légèrement déclinant depuis une semaine. Alors, qui faut-il croire au moment où le professeur Rioux, le directeur de crise de la PHP, parle lui d'une situation alarmante et demande un confinement rapide, musclé mais court? Assiste-t-on à un bras de fer, voire une rupture entre l'exécutif et les scientifiques? On en débattra après 19h dans Le Monde tel qu'il est. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres de l'actualité de ce mercredi 10 février.
Et à la une ce soir du foot, et rarement un entraîneur ne sera resté aussi peu longtemps dans un club. Raymond Domenech est écarté du FC Nantes. Dans ce journal également, une nouvelle illustration de la crise sociale engendrée par le Covid. Certains collèges sont désormais obligés de distribuer des colis alimentaires. Reportage saisissant. Et puis on ira aussi au palais de justice de Nanterre où Marine Le Pen et Gilbert Collard étaient jugés aujourd'hui.
Et puis évidemment, la météo, Peggy Broche, ça caille, on a entendu ça toute la journée.
Et ça va durer demain.
Et ça va continuer.
Exactement, de moins 12 à Langres, moins 3 à Brest, moins 6 à Paris, 2 à Nîmes, ça va baisser également dans le sud, 7 à Bordeaux pour les minimales. Les maximales iront de moins 3 à 3 degrés au nord, 6 à 15 au sud. On va retrouver un temps calme demain, plus sec et ensoleillé. Le matin sur le nord-est et entre les Pyrénées, la Méditerranée, ailleurs ce sera de la grisaille. Dans l'après-midi, il fera beau sur l'est du pays, puis on ira vers l'ouest, puis on aura des nuages et des précipitations de neige en Bretagne et de pluie sur l'Aquitaine, et toujours 17 départements en vigilance orange pour neige, verglas, grand froid et cru.
Voilà, et attention sur les trottoirs. Merci.
Exactement.
Peggy, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Et d'abord donc ce coup de théâtre au FC Nantes. À peine arrivé, Raymond Domenech va devoir faire ses valises après 7 matchs sans victoire. L'entraîneur est limogé. Philippe Audouin, bonsoir. Vous êtes sur place pour RTL, on a appris ça alors même que les Canaries étaient sur le terrain.
Oui, puisque le FC Nantes évoluait cet après-midi dans son stade de la Beaujoire en Coupe de France. Victoire de Lens 4-2. Et Raymond Domenech était absent en raison d'un doute sur un test positif au Covid. Il était donc à l'isolement, sans doute à l'hôtel. Mais c'est lui qui a préparé le match à distance. C'est lui qui communiquait au téléphone pendant le match avec l'un de ses adjoints, Robert Duverne. Et à l'heure où on se parle, on n'est même pas sûr que Raymond Domenech a été informé par ses dirigeants qu'il est bel et bien limogé. En conférence de presse d'après match, il y a un peu moins d'une heure, son autre adjoint, Patrick Collot, a été particulièrement agacé par la question sur le licenciement de l'ancien sélectionneur des Bleus.
Je vais couper court à ça. Ne commencez pas à me parler de ça, parce que déjà, je ne suis pas au courant, donc je ne peux pas vous répondre. C'est pas moi qui doit dire quoi que ce soit là-dessus. Moi, j'étais en train de préparer le match. Je suis suffisamment agacé de l'élimination du match. Vous allez me poser des questions, j'ai l'impression, sur des choses que je ne sais pas. Donc, je n'ai aucune réponse à vous apporter.
Aucun joueur ne s'est exprimé, les dirigeants restent également silencieux, mais c'est une certitude. On ne reverra pas Raymond Domenech sur le banc nantais, et même si rien n'est officiel, son remplaçant devrait être Antoine Comboiré.
Philippe Audouin à Nantes pour RTL, et outre la victoire de Lens à Nantes, donc 4-2 en Coupe de France, sachez que Marseille s'est qualifié pour les 16e de finale en gagnant 2-0 à Auxerre. Ça passe aussi pour Toulouse, 2-0 à Bordeaux, pour Monaco, 1-0 à Grenoble, et Montpellier qui s'est imposé 2-0 à Strasbourg.
Alors on en arrive à la crise sanitaire et ce nouveau conseil de défense à l'Élysée ce matin.
Et toujours pas de reconfinement en vue. Après Olivier Véran hier, Gabriel Attal s'est à son tour montré optimiste. Écoutez.
Nous sommes toujours sur le même plateau haut, même si il apparaît légèrement déclinant depuis une semaine. Il existe bien un chemin pour éviter le reconfinement. Ce chemin n'est pas large, mais il existe. Et nous aurions tort de ne pas tout mettre en œuvre pour y parvenir.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, on est loin du reconfinement très serré d'il y a deux semaines. Cette nouvelle stratégie du gouvernement s'appuie bien sûr sur les chiffres de l'épidémie, sur les conséquences aussi sans doute d'un nouveau reconfinement. On le sait, cette crise est aussi économique et sociale. Nouvelle illustration ce soir avec ces colis alimentaires distribués au collège. Ça se passe à Romainville, en Seine-Saint-Denis. Sans eux, certaines familles ne pourraient tout simplement pas se nourrir, Gauthier de Lombugard.
Les parents dans Bonjour. Le besoin viennent chercher sacs et cartons remplis de denrées alimentaires dans ce gymnase.
Je vous en prie, entrez.
Au fond de la cour.
Donc les parents viennent, on les a appelés. Suivant le nombre d'enfants, on leur remet des colis comme là, madame qui vient d'arriver.
On m'a donné des cornflakes, des gâteaux, des œufs, des savons. En plus, j'en avais pas à la maison, donc...
Karine est au chômage. Cette mère de famille élève seule ses trois enfants.
Ça va m'aider. En ce moment, c'est très dur. Et le budget est très, très, très serré.
Certains parents d'élèves...
Avec le Covid-19, il y a beaucoup de pertes d'emplois.
...sont venus assurer la distribution.
J'en bénéficiais aussi l'année dernière. Alors j'ai dit pourquoi pas aider et donner un coup de main.
Épaulé par des collégiens.
C'est une réalité. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se nourrir.
C'est une marque de solidarité.
Cette initiative est financée grâce au Fonds social, un budget destiné habituellement aux familles en difficulté. Difficultés pour l'achat de manuels ou le financement des sorties scolaires.
Madame Bézi, vous êtes la principale du collège.
Nous avons commencé ce type d'action il y a quasiment un an. Ce n'est pas effectivement acceptable aujourd'hui qu'on ait des enfants qui puissent se poser la question de savoir ce qu'ils vont manger ou pas, parce que les parents sont en grande fragilité depuis le début du confinement.
20% des familles du collège profitent de l'opération. Une nouvelle distribution alimentaire est prévue dans un mois.
À Romainville, le reportage de Gauthier Delon-Bugard pour RTL. Selon les associations, on le rappelle, le Covid aurait fait basculer au moins 1 million de personnes dans la pauvreté en un an. Le nombre d'allocataires du RSA a progressé de 10%. C'est du jamais vu depuis 88 et la création de son ancêtre, le RMI.
Et puis sur le front, la vaccination, Amandine, un mea culpa ce soir, celui d'Ursula von der Leyen.
La présidente de la Commission européenne qui l'a reconnue tout à l'heure, en la matière, l'Europe a sans doute été trop optimiste, Bénédicte Tassard.
Nous avons été trop lents à autoriser les vaccins, trop confiants dans les délais de livraison et trop optimistes sur la production de masse, avoue dès le début de ce face-à-face la présidente de la Commission.
En quelque sorte, la science a dépassé l'industrie. Il n'est simplement pas possible de mettre en place une site de production du jour au lendemain.
Et après ce mea culpa, les reproches fusent. L'extrême droite et l'extrême gauche ne font pas de cadeaux, à l'image de Manon Aubry, eurodéputée La France Insoumise.
Je ne vais pas y aller par quatre chemins, Madame von der Leyen. Comment la Commission européenne a-t-elle pu accepter de se coucher ainsi face aux laboratoires pharmaceutiques ? J'ai le sentiment, Madame von der Leyen, que les dirigeants des Big Pharma ont fait la loi à votre place.
Plus conciliant, Pascal Canfin pour Renew exige toutefois aussi des données mois par mois, pays par pays, du nombre de doses distribuées.
Ces chiffres ne sont pas publics. Comment voulez-vous que les citoyens européens sachent quel est le chemin crédible qui va nous emmener jusqu'à cet objectif si ces chiffres ne sont pas publics ? Seuls trois États les ont rendus publics. Je les salue, le Danemark, la Suède et la France. Que font tous les autres ?
Tout a été déballé. Bruxelles a promis davantage de rapidité et de transparence.
Bénédicte Tassard, spécialiste des questions européennes ici à RTL.
Il est 18h07, on marque une courte pause dans le journal d'Amandine Bégaud sur RTL et puis dans un instant, eh bien on retrouve Marine Le Pen au tribunal.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Et la suite du journal d'Amandine Bégaud avec donc Marine Le Pen, mais aussi Gilbert Collard, jugé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Nanterre.
Tous deux sont poursuivis pour avoir diffusé des photos d'exactions de l'État islamique sur les réseaux sociaux, une affaire qui remonte à 2015. Marie-Bénédicte Allaire, bonsoir. Vous êtes sur place pour RTL. Le parquet a requis 5000 euros d'amende contre chacun d'entre eux.
Oui, car selon l'accusation, ces photos choquantes étaient susceptibles d'être vues par des mineurs. Et en les diffusant, les deux responsables tombent sous le coup de l'article 227-24 du Code pénal qui protège les moins de 18 ans d'images portant atteinte à la dignité humaine. Mais pour Marine Le Pen, c'est là une instrumentalisation de la justice.
Bien sûr, c'est un procès politique. Il a été demandé par le ministre de l'Intérieur. Et le pauvre parquet cherche pendant plusieurs jours sur quelle base il pourrait poursuivre Marine Le Pen. Et il n'en trouve pas.
Les deux responsables politiques explique que la diffusion des photos visait à dénoncer Daesh. Il réfute toute idée d'atteinte aux mineurs. Des journalistes étrangers m'ont appelé pour savoir si j'avais diffusé des images pornographiques, ironise Marine Le Pen. Je ne vois pas quel plaisir les mineurs auraient à regarder mon compte, renchérit Gilbert Collard. Le procureur reconnaît que les prévenus avaient le droit de diffuser ces messages, mais qu'ils devaient s'assurer qu'aucun mineur ne les verrait. Vous renversez la charge de la preuve, s'assure la défense qui plaide la relaxe.
Marie-Bénédicte Allaire en direct du palais de justice de Nanterre pour RTL. Quelques jours après l'apparition du hashtag #ScienceSport, la ministre de l'Enseignement supérieur s'entretient en ce moment même avec les directeurs des différents IEP, une réunion à laquelle ne participe pas Frédéric Mion, le patron de Sciences Po Paris. Il a démissionné hier. Agnès Bonfillon, les étudiants le réclamait depuis des semaines maintenant.
Oui, cette démission était demandée, attendue par les étudiants, cela dit. Pour eux, ce n'est qu'une étape.
Que ça ne soit pas juste une démission qui va être nommée, quelles réformes et quels changements vont être mis en place, et pour répondre aussi à tous les témoignages d'agressions sexuelles.
Des témoignages qui se multiplient ces derniers jours avec le hashtag #SciencesSport. Les étudiants sont conscients d'être à un moment charnière. Si les choses doivent changer, c'est maintenant. Et partout.
Les filières comme médecine, les écoles d'ingénieurs. Autour des grandes écoles, il y a quand même cette idée de secret, de fantasme autour des élites, etc. Mais je pense malheureusement que c'est vraiment répandu partout.
Un travail colossal, cela peut donner le vertige, mais la nouvelle génération semble déterminée.
Ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que la vérité sorte. Là, on parle de vie humaine et c'est rien par rapport au prestige d'une grande école.
C'est pas un manque de prestige que de décider d'être plus féministe et peut-être montrer la misère pour après la régler, et c'est plutôt un modèle.
Ce serait donc tout à l'honneur de Sciences Po de montrer l'exemple, de faire enfin bouger les choses.
Agnès Bonfillon à Sciences Po Paris pour RTL.
Voilà la démission de Frédéric Millon. Pourquoi le dessous des cartes? On en parle dans quelques minutes avec la journaliste du Monde qui avait déjà écrit autour de la Familia Grande, le livre de Camille Kouchner. Ariane Chemin sera avec nous dans un instant. 13 départements restent ce soir en alerte neige, verglas, grand froid.
Oui, la Somme ainsi qu'un bon quart nord-est de la Seine-et-Marne au Bas-Rhin. Sur toute la moitié nord toutefois, restez très prudents ce soir, demain aussi puisqu'il fera toujours bien froid, Peggy nous le disait. Et ça risque de glisser notamment sur les trottoirs. Exemple dans les départements de Paris et des Yvelines où les pompiers ont dû gérer quelques chutes aujourd'hui.
On dénombre plus de 250 interventions qui sont directement liées à cet épisode neigeux. Les chutes sont nombreuses, mais fort heureusement, dans la plupart des cas, elles sont bénignes. Donc c'est essentiellement des contusions, c'est essentiellement des gens qui se déplacent pour aller déposer des enfants à l'école, pour aller au travail. Et on constate vraiment que ces accidents interviennent au moment des mouvements pendulaires, donc le matin et en fin d'après-midi.
Voilà, donc faites attention demain en sortant de chez vous. C'était le lieutenant-colonel Bouette au micro RTL de Morad Djabari. Les transports scolaires, sachez-le, par ailleurs, sont à nouveau suspendus demain dans les Côtes d'Armor et en Ille-et-Vilaine. La bonne nouvelle ?
Ah bah oui, on quand même, pourquoi vous n'allez pas partir comme ça, la bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Pour avec une bonne nouvelle pour Camélia Jordana. 3 ans après son César de meilleur espoir féminin pour le Brio, la voilà nommée dans la prestigieuse catégorie meilleure actrice. Et oui, rien que ça. Cette fois pour son rôle dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret. Un film qui est d'ailleurs en tête des nominations avec 13 citations. Camélia Jordana qui s'est confiée au micro RTL de Steven Bellery.
C'est vraiment très joyeux. Bon, déjà, cette catégorie est magnifique. Le fait de pouvoir y figurer, c'est un vrai rêve pour le coup. Et le fait de pouvoir y figurer aux côtés de ces actrices, en plus, c'est encore au-delà. C'est magnifique, c'est extraordinaire.
Je vous sens très émue.
Bah ouais, c'est émouvant. Non, c'était un grand rêve et un grand désir que j'avais depuis petite. Alors, je faisais des spectacles avec ma sœur, avec mes cousins, avec mes cousines à la maison. Je faisais du théâtre adolescente et c'était un vrai désir que j'ai eu après la sortie de mon premier album. J'ai dit à mon premier manager, si les rêves se réalisent comme ça, bon, j'en ai un autre. Je rêve d'être actrice et de jouer dans des films. Comment on fait ?
Une nomination aux Victoires, une nomination au César la même année, c'est pas un peu fou ?
C'est délirant. Franchement, je réalise pas du tout.
Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile.
Alors ça c'est facile, qui est donc nommé dans la catégorie chanson de l'année pour les Victoires de la musique qui auront lieu vendredi. Et si Camélia Jordana décroche le César de meilleure actrice, ce serait une première puisque parmi les chanteuses actrices, seule Jane Birkin et sa fille Charlotte Gainsbourg ont déjà été nommées, mais elles l'ont pas eu.
Donc elles pourraient avoir les deux en même temps. Faudra trouver de la place sur la cheminée.
Verdict le 12 mars pour les Césars.
Merci beaucoup Amandine. Vous revenez tout à l'heure un petit peu après 19h pour nous parler notamment...
Il y a un an, il y a un siècle, on parlera disque d'or.
Très bien, ce sera évidemment après le rappel des titres. Il est 18h15, on va marquer une courte pause et puis dans un instant accueillir celle qui avait publié une longue enquête dans Le Monde sur l'affaire Olivier Duhamel, dénoncer l'omerta qui avait régné. La journaliste Ariane Chemin est l'invitée d'RTL Soir au lendemain de la démission du patron de Sciences Po, Frédéric Millon. A tout de suite.
RTL Soir.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Invité d'RTL Soir, Ariane Chemin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes grand reporter au journal Le Monde. On vous donne notamment l'enquête qui avait accompagné le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, dénonçant les actes d'inceste commis par son beau-père Olivier Duhamel. Vous signez d'ailleurs encore aujourd'hui avec Raphaël Baquet un papier de décryptage de cette démission du patron de Sciences Po. Frédéric Millon, il disait depuis le déclenchement de l'affaire qu'il ne démissionnerait pas. Il l'avait dit à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis et se résoudre d'un seul coup à la démission ?
Le rapport de l'inspection de l'éducation nationale qui lui a été remis et dont il a eu connaissance hier, hein, qui est un rapport conséquent, plus de 60 pages, avec beaucoup de personnes qui ont été entendues, plus d'une soixantaine, et qui en fait conclut que voilà, qu'il a caché la vérité, y compris aux inspecteurs, et ça évidemment face à ça, il ne peut plus rien faire.
Alors il y a plusieurs aspects dans ce rapport, on va y venir notamment sur ce qui serait les mensonges ou les omissions de Frédéric Millon. Mais on en a, j'allais dire, les grandes lignes hein, ce soir dans Le Monde également.
Absolument, sur le site.
On apprend que 6 personnes au sein de Sciences Po étaient au courant.
Oui, alors on en connaît quelques-uns. Il y a une enseignante qui s'appelle Janine Mossus-Lavaux, qui est une figure de Sciences Po. Tous les étudiants en lisent ses livres sur la sexualité des Français. Et puis, il y a une personne anonyme qui est notre enseignante. Il y a une personne membre du COMEX, comme on appelle le comité exécutif de Sciences Po. Et puis, il y a la seule qui a parlé, qui est, que vous aviez reçu, je crois, à RTL, qui est l'ancienne ministre de la Culture socialiste, Aurélie Filippetti.
Ça fait du monde, quand même.
Ça fait du monde, mais la vérité, c'est que les gens savaient, donc personne n'a fait la démarche solennelle d'aller voir Frédéric Millon pour lui dire il y a un problème, si ce n'est justement Madame Filippetti. Et les autres savaient parce que soit ils étaient des proches d'Olivier Duhamel, comme Janine Mossus-Lavaux, soit parce qu'ils avaient entendu dire. Mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal de monde.
Alors, pas mal de monde au sein de Sciences Po, mais pas seulement au sein de Sciences Po, puisque apparaît le cas de Marc Guillaume, ancien secrétaire général du gouvernement, actuel préfet d'Île-de-France. Il apparaît qu'il avait été informé par Frédéric Millon, je crois, dès la fin 2018. Il aurait lui-même directement évoqué à un moment l'affaire en face à face ou au téléphone, je ne sais pas, avec Olivier Duhamel fin 2019. Est-ce que aujourd'hui Marc Guillaume est fragilisé, certains disent menacé?
Alors Marc Guillaume, il a la confluence de tout ça, puisqu'il est à la fois au conseil d'administration de la FNSP, la Fondation Nationale des Sciences Politiques, il était à l'époque secrétaire général du gouvernement à Matignon, homme très puissant et très craint, et puis effectivement, quand l'ancienne ministre socialiste de la Culture va voir Frédéric Millon en février 2018, à l'issue de leur entretien, il lui dit voilà, deux personnes m'ont parlé du cas d'Olivier Duhamel, il dit je vais prévenir Marc Guillaume. Marc Guillaume, c'est à la fois son ami, un autre conseiller d'État, parce que ça c'est très important aussi, on rencontre des conseillers d'État.
Beaucoup de conseillers d'État.
Voilà, ouais. Et il dit, je vais aller voir Marc Guillaume, et c'est ce que raconte au Monde Aurélie Filippetti quelques jours après le premier article consacré à la Familia Grande, le fameux livre de Camille Kouchner. Enfin, elle me raconte ça, et moi je me souviens qu'à l'époque, j'appelle et Marc Guillaume, qui refuse de confirmer ou d'affirmer, je lui dis, mais est-ce que oui ou non Frédéric Millon vous avertit? Il n'a pas répondu, et quant à Frédéric Millon, il a nié. Donc en fait, Frédéric Millon, son problème, c'est qu'il a menti à la presse, il a menti à la télévision de Sciences Po, donc aux étudiants, il a menti au syndicat étudiant, il a menti à la direction et il a menti in fine à l'inspection nationale.
Mais pourquoi? Uniquement pour préserver la réputation de Sciences Po?
Alors en partie, je pense, hein, parce que c'est une école qui a un grand rayonnement international et qui boit beaucoup à sa réputation. C'est-à-dire que c'est vraiment l'image de Sciences Po est très forte. En plus, Sciences Po a connu des tas de rebondissements au sein de sa direction. Le dernier directeur était mort après un mini-scandale. Donc voilà. Et donc je pense qu'ils étaient sur la voie. D'ailleurs, beaucoup de personnes aimaient beaucoup Frédéric Millon parce que c'était un réformateur. Et puis il a, à force de, en général, quand on commence à mentir, parce que je tiens quand même à dire que au tout début janvier, il était au bord de la démission un soir. Je me souviens parce qu'il m'a dit je vais faire mon communiqué. Et puis, tout ça s'est renversé. Il s'est dit que ça allait passer. Et finalement, il a été rattrapé par ses cachotteries, j'allais dire. C'est le mot est faible. Un mois plus tard.
Parce qu'on est enfermé dans son mensonge. Même s'il était soutenu au sein même de l'école, y compris par exemple par Louis Schweitzer, qui assume l'intérim à la présidence de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, qui disait, bon, il a peut-être commis une erreur d'appréciation, il n'a pas commis de faute. En interne, même si il y avait un mouvement chez des étudiants qui appelaient à ses démissions, l'émission, il n'était pas vraiment remis en cause.
Il était pas. Alors, il était soutenu par les profs. Hein. Oui. Les étudiants étaient chez eux, puisqu'on est en pleine épidémie de Covid. Donc, c'est vrai que c'est pas le moment où on peut mobiliser. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce qu'on lui reproche aujourd'hui, évidemment, c'est d'avoir pas révélé la vérité. Mais au-delà de ça, ce qu'on reproche à Frédéric Mion, c'est moins d'avoir caché quelque chose que d'avoir poussé quelqu'un dont il connaissait le passé, notamment les actes d'inceste commis, à la fois à la tête de la FNSP, lors de la dernière conférence inaugurale en septembre, où il demande à Olivier Duhamel de présenter cette conférence qui a lieu devant tous les étudiants.
Il le présente comme un ami.
Il dit donc je m'honore d'être l'ami. Mmh. Et puis il l'a aussi, comme d'autres, comme Marc Guillaume, poussé à la présidence du siècle, ce club élitiste où se retrouve l'élite française des médias, de l'économie, de la politique. Donc c'est ça qu'on lui reproche aussi, c'est de l'avoir poussé en connaissant les actes commis par Olivier Duhamel.
Y a forcément aussi quelque chose d'assez vertigineux dans cette affaire où vous disiez, on croise énormément de conseillers d'État, notamment Marc Guillaume, qui quand même à l'époque est secrétaire général du gouvernement de l'ancien Premier ministre.
Oui, c'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que ce sont des gens qui s'affranchissent, qui se sont affranchis de loi, en tout cas des règles de la vérité, par exemple, alors qu'ils disent tous la loi. C'est-à-dire que Olivier Duhamel, c'était un prof de droit constite, donc il a baigné là-dedans toute sa vie, il est agrégé de droit public. Ensuite, Frédéric Mion, il est conseiller d'État, comme l'est Marc Guillaume. Que font les conseillers d'État? Mais d'abord, le conseiller d'État, c'est quelque chose de très prisé quand vous sortez de l'ENA. C'est vraiment ceux qui sortent de la botte de l'ENA qui choisissent ce corps particulier où on défend les citoyens face aux abus du droit et où on dit le droit pour l'État. Donc c'est quand même pas le moindre des paradoxes de cette histoire qui est assez vertigineuse parce qu'on part d'un livre et on arrive à une succession comme un jeu de domino de personnes qui chutent.
Voilà, et on arrive quand même à l'ancien secrétaire général du gouvernement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il en ait parlé
Tout imaginer.
Oui.
Bien sûr que, on va pas faire de plan sur la comète, mais Marc Guillaume et Frédéric Mion, si c'est la question, sont très amis avec le Premier ministre Édouard Philippe. Voilà, moi j'ai rien de plus à dire là-dessus, je n'ai pas d'informations sur le sujet, mais vous avez raison de poser la question.
En tout cas, on peut se la poser, cette question. La parole se libère, en tout cas aujourd'hui, chez les étudiants, étudiantes de Sciences Po, à Paris comme en province, c'est le hashtag Sciences Po, avec des témoignages de victimes de viols, d'agressions sexuelles. Toutes ces écoles destinées à former les élites sont aujourd'hui quand même accusés d'avoir privilégié leur réputation à la transparence, à la morale. Je sais, alors la morale, le terme peut être galvaudé, mais c'est un peu la question qui se pose.
C'est la question qui se pose, mais c'est le propre de toute révolution culturelle. On vit, c'est vrai, une révolution culturelle en direct depuis 2 ans avec MeToo, puis maintenant MeTooInceste, le nouvel hashtag. Une révolution culturelle, ça emporte tout sur son passage. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on part du témoignage d'une femme qui est toute seule et qui a un peu peur et qui dit je vais me heurter à la mafia. Et puis au fond, finalement, emportée par le vent de cette révolution, elle était plus forte que tout le monde. Et donc, effectivement, son témoignage n'est pas venu buter aux portes de Sciences Po, il est rentré dans Sciences Po.
Alors, évidemment, il ne faut pas tout mélanger, quand même, on est frappé par la multiplication des affaires qui mettent en cause des personnalités. Olivier Duhamel, c'est en quelques jours, Richard Berry, Gérard Louvain, côté politique, François Asselineau, tout dernièrement ce matin, garde à vue pour Dominique Boutonnat, qui est le président du CNC. C'est parce qu'ils sont connus qu'on en parle. Et c'est parce qu'on en parle que les choses avancent, c'est finalement ça?
C'est parce qu'il y a eu un effet Camille Kouchner. Et d'ailleurs, tout le monde le dit, dans ces personnes qui ont témoigné. Ils disent, écoutez, en lisant ce livre, tout d'un coup, la parole, c'est souvent comme ça dans une révolution culturelle. C'est-à-dire que la parole s'est débridée. Et il y a eu l'effet de ce livre, comme il y a eu, après Vanessa, le livre de Vanessa Springora, beaucoup de témoignages sur des violences sexuelles. Et en fait, c'est la force d'un livre, la force d'un témoignage qui souvent débloque des situations. Alors évidemment, on parle davantage de ces personnes. Ce qui est intéressant, c'est que l'inceste, par exemple, est unanimement, c'est réparti dans toutes les classes de la société française.
De manière très équilibrée.
Donc aujourd'hui, on parle davantage peut-être de personnes qui étaient plus épargnées que d'autres, ou en tout cas de personnes connues. Mais c'est comme ça, et c'est aussi le propre de ce genre de mouvement, parfois de connaître certains excès. Il y en aura des excès, évidemment. C'est toujours comme ça dans ce genre de mouvement. Mais là, il y a une sorte de vent, jusqu'à étonner parfois d'ailleurs les auditeurs, les téléspectateurs ou les lecteurs qui se disent, mais on ne parle plus que de ça. Mmh. Mais c'est parce que simplement la parole s'est débloquée après ce livre.
Et dans, justement, dans ce contexte de parole qui se libère, quel est le rôle du journaliste? En sachant qu'évidemment, mettre un nom sur la place publique dans des affaires de ce type, ça a des conséquences très lourdes. Pour la personne, pour les familles.
Eh bien, nous, on fait très attention. Par exemple, avant de publier les informations contenues dans ce livre, on a mené tout le mois de décembre une enquête. Enfin, je le sais puisque j'ai rencontré les protagonistes. Si, par exemple, la victime, le frère jumeau de Camille Kouchner ne nous avait pas parlé, eh bien, je pense que nous n'aurions pas publié. Mm-hmm. Eh bien, c'est la même chose. Là, il se trouve que dans les récentes enquêtes, parfois, nous étions au courant d'affaires qui étaient portées, qui arrivaient à nous bien avant que d'autres titres les publient, et nous avons préféré attendre pour vérifier, croiser, etc. Il faut être très prudent.
Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir sur RTL, un petit peu décrypter cette affaire vertigineuse par certains aspects. Merci,
merci
encore une
vous.
Fois, Ariane Chemin, grand reporter au Monde. On marque une courte pause et puis dans un instant, ce sera l'œil de Valérie Trier-Weller qui va nous demander et l'amour dans tout ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on se pose la question, à tout de suite.
RTL Soir.
Il est 18h30.
Vincent Parisot, RTL Soir.
Amandine Bégaud, vous nous rappelez l'essentiel de l'info?
Oui, avec du football ce soir et à peine arrivé à Nantes, Raymond Domenech va devoir faire ses valises. L'entraîneur est écarté. Info révélée alors même que les Canaries jouaient cet après-midi. 32e de finale de la Coupe de France face à Lens. Et une nouvelle défaite, encore une. Il s'incline 2-4. Dans les autres rencontres, on retiendra la qualification de Toulouse qui a battu Bordeaux 2-0. Marseille qui s'impose 2-0 à Auxerre. Même chose pour Montpellier face à Strasbourg. En ce moment, Brest mène 2-1 face à Rodez. Nice 2-1 également face à Nîmes. Amiens et Metz sont à 1 partout. À 19h, ce sera Dijon-Lille, puis Caen PSG à 21h. Et puis l'autre grand titre de l'actualité ce soir, c'est bien sûr la crise sanitaire et pas de nouveau reconfinement en vue, en tout cas pas pour l'instant. Un nouveau conseil de défense avait lieu ce matin. La situation reste fragile, a dit le porte-parole du gouvernement, mais il existe bien un chemin pour éviter un nouveau confinement.
Voilà, et puis il y a un autre grand titre, évidemment, c'est le grand froid.
Ah bah ça,
on a l'impression qu'on a ouvert le congélo.
C'est un peu ça.
Et ça va pas s'arranger demain, Amandine.
Non, moi c'est Peggy, c'est pas grave, mais je comprends avec le froid, en fait, ouais. On est perturbé. Demain matin à Épinal. Moins 13, vous avez bien entendu. Hein. Et je ne parle pas du ressenti, oui, je parle de température réelle. Donc ça veut dire qu'en ressenti, c'est encore moins puisqu'on aura du vent, de la bise toujours. Moins 12 à Mulhouse, moins 10 à Melun, moins 7 à Lille et moins 3 à Brest. Ça va également baisser dans le sud. Moins 3 à Limoges, 0 degré à Montélimar, 5 à Toulouse et 7 à Perpignan. Les maximales iront de moins 3 degrés à 3 au nord, de 6 à 15 au sud. Donc vous l'avez compris, froid, mais beau dans l'ensemble. Il y aura pas mal de grisailles matinales, surtout dans le sud, un ciel bien voilé sur la façade atlantique. Dans l'après-midi, on profitera du soleil sur toute la moitié est du pays. Et le ciel sera de plus en plus voilé en allant vers l'ouest et même couvert avec des précipitations vraiment juste sur la façade atlantique sous forme de neige en Bretagne, de pluie en Aquitaine. Et je rappelle qu'il y a toujours 17 départements en vigilance orange pour neige verglas, grand froid dans le Grand Est et dans le Nord-Ouest, pardon, et cru également.
Merci Peggy, à tout à l'heure. Ça sera pas facile demain de sortir de la couette. Hein. Restez-y si vous pouvez, ça tombe bien, on va parler d'amour maintenant. Bonsoir Valérie Trier-Weller.
Bonsoir.
Donc, vous nous parlez d'amour, mais pourquoi?
Oui, mais moi je vais parler de bise, mais pas de la même. Vous le savez, Vincent, dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin.
Ah oui, c'est vrai, j'avais pensé l'inviter au restaurant.
Pas l'oublier, ouais, voilà. Ouais. Vous savez, cette fête que l'on dénigre facilement au motif qu'elle est commerciale, et bien cette année, non, justement, on va la fêter parce qu'on va encourager les fleuristes. Et puis, vous savez pourquoi on a envie de la fêter, surtout la Saint-Valentin?
Non, mais je sens que vous allez nous le dire.
Voilà. Écoutez. Love is in the air. Everywhere I look around.
Love is in the air. Every sight and every sound. Alors l'amour est dans l'air. Hein.
Mais oui, voilà, justement, puis on en a besoin pour se réchauffer. Alors comme je vous le disais, il faut encourager les fleuristes. L'année dernière, avec le confinement, des millions de fleurs ont été détruites et 2000 fleuristes ont fermé leurs portes définitivement. La Saint-Valentin, c'est encore l'occasion de faire travailler les restaurateurs en faisant livrer donc de bons repas. Mmh. Mais bon, c'est vrai que je voulais quand même surtout vous parler d'amour.
Ah, quand même.
Parce que l'amour en temps de Covid, c'est pas évident. Mmh. Hein, sans vouloir mettre la charrue avant les bœufs, vous savez que l'année dernière, il y a eu 34% de mariages en moins selon l'INSEE. Et vous savez ce qu'on fait après le mariage?
Alors qu'est-ce qu'on fait après le mariage? Oui, on fait des enfants,
voilà,
des bébés.
Voilà, exactement. Mais en 2020, c'était la cata aussi, puisque l'année n'a pas été très productive. Il y a eu, selon l'INSEE, toujours 14 000 naissances en moins. Ce qui fait que le taux de fécondité des femmes est le plus faible qu'il n'y ait jamais eu en France. 1,84 au lieu d'1,86 l'année précédente. Et puis vous savez, bon, avant d'arriver à cette étape du mariage des enfants, oui, il faut surtout trouver la bonne personne. Et ça, c'est pas une mince affaire, surtout pendant cette période d'épidémie où tout est fermé. Alors en France, toujours selon l'INSEE, il y a plus de 10 millions de personnes qui vivent seules. Bah attention, hein, on peut vivre seul et ne pas être célibataire.
Oui, oui.
Et on peut vivre à plusieurs et être un cœur à prendre. Vous me suivez, Vincent ?
Ouais, je prends des notes, mais jusqu'ici, tout va bien.
Bon, bref, en réalité, les célibataires en France seraient 18 millions. Un jeune sur quatre le serait également. 21% des célibataires sont en Île-de-France. Alors donc, les célibes, vous voyez, il ne faut pas désespérer. Il ne reste plus qu'à rencontrer la bonne personne.
Oui, mais ça, ce n'est pas le plus simple, voyez-vous, Valérie.
Bah non, puisque comme on le disait, la plupart des rencontres se font sur le lieu de travail. Et mince, avec le télétravail, ça devient encore plus difficile. Mmh. Les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, tout ça était déjà fermé. Alors c'est d'autant plus frustrant pour les célibataires que selon les psys, le couple est devenu une valeur refuge. Et dans cette période de Covid où règne une atmosphère mortifère et une grande incertitude, on pense qu'on est plus fort à deux que seul.
Bon, bah, on voit le tableau que vous nous dressez. Donc ils font comment les célibataires aujourd'hui,
les
Valérie?
Les célibataires un peu modernes, donc oui, ils vont sur les sites de rencontres qui n'ont jamais aussi bien fonctionné. Mais avec un écueil: où fixe-t-on le premier rendez-vous? Vous savez qu'on ne va jamais chez quelqu'un la première fois, donc c'est compliqué.
Ça se fait pas.
Bon, la bonne nouvelle, c'est que selon les spécialistes, ça, il y a eu du coup de véritables changements dans les méthodes d'approche.
Ah, aujourd'hui, racontez, ça nous intéresse.
Bah, aujourd'hui, on se parle très longuement. On encourage les mots pour remplacer les gestes. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Mmh. Et désormais, donc, l'amour, bah, ça passe avant la drague. Alors, à bon entendeur. L'amour.
Le
oui,
jour,
hein, c'est chanté, parce que c'est une chanson ancienne de Mouloudji qui a été reprise justement par ce groupe à bon entendeur et qui tombait quand même pas mal aujourd'hui, faut bien le dire.
L'amour, l'amour.
Bon, j'en profite pour dire à mon chéri qu'il n'a pas intérêt à oublier la Saint-Valentin.
Ah oui, lui aussi, il pensait vous inviter au restaurant peut-être.
On verra, on verra.
Merci beaucoup Valérie Trierweiler. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. On marque une courte pause et puis dans un instant, une légende. Oui, parce que lui, il est dans le bureau des légendes, mais pas que, hein. Jonathan Zakaï a quitté l'écran le temps de son premier roman, Ma femme écrit. Affaires de famille et parano au niveau, hein, au programme. On en parle tout de suite avec lui, à tout de suite.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Invité d'RTL Soir, Jonathan Zakaï, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être venu jusqu'à nous. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le Bureau des Légendes ou le téléfilm à succès infidèle, pour ceux qui ne sont pas cinéphiles ou qui ne sont pas belges d'ailleurs, vous êtes belge je crois.
Oui, malheureusement.
Oui, c'est ça, nul n'est parfait. Une petite piqûre de rappel, comédien, réalisateur, scénariste et donc désormais romancier. Ma femme écrit, c'est votre premier roman publié chez Grasset, il est sorti aujourd'hui. Alors tout d'abord, voilà, comment vous vous sentez? Quelle est la différence avec la sortie d'un film? Ça, c'est votre œuvre, et finalement, depuis ce matin, elle ne vous appartient plus vraiment.
Oui, exactement. Bah, écoutez, là, j'ai l'impression, voilà, je peux pas me cacher derrière un rôle, derrière un réalisateur, un projet. Là, comme vous me voyez là, je suis tout nu en train de courir. Non, une impression de nudité agréable, d'ailleurs. Non, au-delà de la blague, c'est vrai que c'est autre chose. C'est une manière d'être plus proche d'une liberté complète. Voilà, j'assume et je le signe totalement. Donc, c'est agréable.
Alors, on va raconter rapidement. C'est l'histoire d'un comédien, fils d'une mère artiste renommée. Fantasque. Il est marié avec une scénariste qui un jour va lui dire qu'elle travaille sur un scénario dont sa mère à lui est le personnage central, alors que lui-même, il travaille sur un roman consacré à sa mère. Là, c'est la guerre qui commence. En tout cas, lui, il prend comme un coup de poignard. Finalement, il a l'impression qu'elle le dépouille de ce qui lui est le plus cher. Ça, c'est l'histoire. Ouais. On va voir qu'après, bon, il part bien en vrille, le garçon. Mais ce que je veux dire, c'est que vous-même, vous êtes acteur, fils d'une artiste, la peintre Sarah Kalinsky, marié à une femme scénariste, entre autres, Elodie M, voilà, qu'on connaît et qu'on salue. Quand vous dites « je me suis mis à nu », c'est ça, ça veut dire que c'est pas vraiment un roman.
Écoutez, c'est quoi un roman? Un roman, c'est aussi de la forme, c'est l'écriture. Après, c'est vrai que ce qui m'amusait, c'était de faire semblant de faire une autofiction, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'évidemment, je ne suis heureusement pas aussi fou que mon personnage, mais c'était que le lecteur se dise, tiens, voilà, on est dans l'autofiction, il ne supporte pas que sa femme écrive sur cette mère artiste exceptionnelle dont il a envie d'être le seul dépositaire, le seul à mettre de la lumière sur cette femme. Et quand sa femme lui apprend qu'elle a ce scénario, il devient dingue, mmh. Il pète un câble. Jusque-là, ça m'est arrivé, mais je me suis géré, vous voyez, ouais. Dans la vraie vie. Mais c'est vrai que le personnage en moi et le parano qui sommeille, il était là, il était très vivant, mmh. et c'est de là qu'est partie l'idée de ce roman et que je me suis laissé partir dans un.
Quand vous dites jusque-là, ça m'est arrivé, ça veut dire que votre femme vous a bien dit, je veux écrire sur ta mère.
Voilà. Mais ouais. C'est vrai que j'avais un rapport très particulier avec ma mère, ouais. Qui fait partie de mon ADN. C'était une femme assez exceptionnelle. Il y a des gens qu'on a du mal à laisser partir. Et puis c'est la question de est-ce qu'on est propriétaire du souvenir d'un être aimé, ouais. Est-ce qu'on a vraiment envie de le partager? Et le couple a beau être un très beau collectif qu'on nous a vendu avec beaucoup de joie, il y a un moment où parfois c'est stop, non, là c'est à moi, et ma mère
non, mais finalement, c'est sa
propriété, vous voyez,
c'est très bien joué parce que c'est du billard à deux bandes, vous lui rendez quand même hommage, vous la racontez avec beaucoup d'humour d'ailleurs, en racontant l'histoire de cet homme qui se bat pour la faire exister. Exactement. Mais qui est vous, on est dans un jeu de miroir permanent avec
et ce roman qui n'avance pas dans le livre, et finalement c'est celui que j'écris aussi à côté, qui est celui de ma mère, qui du portrait de cette femme, de cette famille qui se dessine en parallèle.
Et c'est pour ça qu'à un moment vous expliquez que vous êtes senti dépossédé, que c'est un sentiment extrêmement violent. Est-ce que c'est parce que d'une certaine manière aussi ça vous dépossède de la mémoire familiale à travers votre mère, à travers son père? Votre grand-père déporté à Auschwitz. Est-ce que y a une dépossession de cette mémoire familiale, et là on touche à quelque chose qui est intouchable?
Oui, exactement. On touche à quelque chose d'intouchable, et puis il y a quelque chose, comme le dire des personnages, c'est un peu un Don Quichotte bobo parisien, c'est-à-dire qu'il y a une envie désespérée de redonner vie à cette femme et d'être celui qui va lui donner de la chair, de la lumière, et il est prêt à faire ce combat, et il trouve l'ennemi idéal qui est cette femme, et ça devient un combat dans le quotidien. Qui est sa femme, évidemment.
Alors, ce qui est assez drôle, c'est que d'un seul coup, il se met à la regarder très bizarrement, sa femme.
Ah ben complètement, elle est transformée.
Même physiquement,
son nez qui ressemble en forme de couille quand on le regarde à l'envers. Elle a le dos d'une nageuse est-allemande. Enfin, il la transforme complètement alors qu'elle est... Ma femme est très belle, tout le monde le sait. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que j'avais besoin d'en faire une ennemie, et donc son regard est complètement tronqué, quoi.
Alors, après, c'est là que ça part un peu en vrille. Hein. On va pas évidemment raconter le livre, mais ce comédien, écrivain, dépossédé de son sujet d'inspiration, il devient totalement parano. Même son fils l'appelle Paparano, parce que ça prend des proportions extraordinaires. Il va finir par se perdre totalement dans sa parano.
Oui, il va se perdre dans sa parano, c'est-à-dire que il a l'impression d'être au centre d'un complot, quoi.
C'est ça.
Même un complot familial, pour finalement toujours se souvenir de cette femme qu'il a envie, lui, d'être le seul. Enfin voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de ridicule à tout ça. Et en même temps, j'ai voulu aussi faire plaisir au narrateur et au parano qui sommeille en moi. Le fantasme du parano, finalement, c'est que le réel soit bien pire que ce qu'il avait imaginé. Mmh. Et c'est ce qui arrive à mon personnage, c'est que dans sa spirale de folie, le réel va être encore plus fou que lui et le surprendre encore plus. Et c'est là où j'aimais bien ce glissement de genre. Et pour ceux qui pensaient que c'était une autofiction, à un moment, ils vont forcément se dire...
À un moment, on se dit, c'est pas possible.
Là, ça commence à être comme... voilà. Et donc, dans ce sens-là, c'est aussi une aventure qui part du quotidien tout petit à quelque chose de plus grand, quoi. Et je voulais... Voilà.
Vous parlez en connaisseur quand vous décrivez cette paranoïa, l'impression qu'il y a un complot familial qui a été créé. Vous êtes parano dans la vie, vous-même?
Je suis un parano qui se soigne dans le sens où j'ai toujours malheureusement cette tendance à penser à toutes les possibilités que m'ouvre une situation donnée. Et donc forcément, là-dedans, j'ai quand même quelqu'un de lucide qui me dit « Ok, maintenant que tu as sélectionné tout juste pour un événement anodin, est-ce qu'on peut juste maintenant vivre normalement ou pas ?» Ouais. Et donc là, voilà, donc c'est une parano très bien gérée, mais qui est assez amusante. Je crois qu'il y a une peur de l'ennui, on a tous cette peur-là de l'ennui. Le quotidien est franchement chiant si on n'imagine pas plusieurs choses. On a été tous confinés pendant un moment. Moi, j'ai eu la chance d'avoir plein de probabilités géniales chez moi, de parano possibles. Je me crée des pièges intérieurs pour m'amuser aussi. Et je veux dire, et la fiction, c'est un peu ça aussi.
Mais le livre, il n'est pas écrit parce que vous êtes confiné, parce que vous ne pouvez pas exercer votre métier d'acteur. Le livre, il est en vous depuis...
Le livre, l'écriture, l'amour de l'écriture.
C'est bien antérieur.
Non, évidemment, c'est pas du tout juste lié à ça. Mais c'est vrai que le confinement m'a permis de le boucler, en tout cas, de le finir, en tout cas, ça, c'est sûr.
C'est pas simple en ce moment, j'imagine, pour les comédiens.
Non, c'est pas simple. Après, c'est vrai, je tourne, on bosse. Donc, j'ai fait déjà deux
cinéma,
deux,
télé.
Depuis le confinement. Et c'est vrai que c'est quand on arrive à la question de quand le film sort, c'est vrai qu'on a tous un peu, voilà, on se regarde tous en se disant bon, ben, Inch'Allah, ça va sortir quand on est dans le doute. Donc, il faut que ça bouge là, c'est vrai que là, il y a certaines, je sais que c'est pas facile à gérer tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des décisions qui peuvent quand même avancer sur certains lieux. On connaît le contraste entre certains lieux qui restent ouverts et où il y a vraiment des mouvements de foule dingue, et puis des cinémas où il y avait le théâtre où vraiment il y avait un effort énorme.
Quand vous dites faut que ça bouge, il faut que les cinémas rouvrent rapidement.
Mais on va de toute façon devoir faire du chirurgical, c'est-à-dire s'adapter maintenant. On va pas pouvoir tuer des industries, et je parle pas que de la mienne, mais c'est vrai qu'à un moment il va falloir adapter, quoi. Donc oui, probablement réouvrir. Mais j'en reparle au ministère de demain, de toute façon.
Oui, bah, ça, j'imagine.
Mais oui, bien sûr.
en parlant de films, c'est vrai qu'on rit beaucoup. Hein. Je le dis pour le lecteur, on rit beaucoup en lisant Ma femme
est une comédie.
C'est une comédie.
Il y a de la dérision. Il y a beaucoup de dérision.
Qu'on imagine très bien adapté au cinéma ou à la télé. Ça vous dit?
Ouais, ça me dirait bien. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, ça pourrait être.
On vous en a parlé déjà?
On m'en a déjà un peu parlé. On commence, quoi. Mais bon, il vient de sortir. Donc, ouais, mais c'est vrai que oui, ce serait tout à fait. J'aimerais bien un film dans l'ambiance d'un film de Spike Jonze, quoi. Une espèce de le quotidien, mais qui part en vrille complète, quoi.
Avec vous dans le rôle de Vincent et votre femme dans le rôle de votre femme.
Écoutez, on va arrêter la mise en abyme. Non, je pense au contraire. Prendre de la distance.
Ouais, prendre un peu de distance.
Ça fera pas de mal. Oui.
Bon, évidemment, j'ai une question à poser pour tous vos fans, mais pas seulement. Le Bureau des légendes. On attend la suite, forcément, aujourd'hui.
Oui, et nous aussi. D'ailleurs, les acteurs. Non. Écoutez, c'est en écriture. Éric Rochant ne sera pas de la partie cette fois-ci, mais voilà, le producteur Alex Berger et Éric ont pris du temps pour choisir d'autres personnes qui vont prendre en main le bureau, et je sais qu'ils sont en écriture. Voilà, maintenant avec la pandémie, tout ce qui se passe pour l'instant, de toute façon, je vois pas comment on tournerait la DGSE, impossible. On pourrait tourner la DGSI éventuellement, mais avec tous les voyages qui nous
donc pour vous, ça vous paraît impensable à court terme?
À court terme, oui, mais par contre, c'est en cours, et je pense qu'il y aura une saison 6. J'ose le pense. Après, ça ne l'engage que moi, donc finalement, c'est pas très grave, mais je peux pas l'assurer, mais je crois que c'est en cours. Vraiment.
Qu'est-ce qui fait pour vous le succès de cette série, particulièrement, notamment à l'international d'ailleurs, parce que ça marche très très fort à l'étranger?
Oui, je pense que ça a été d'abord la rigueur de l'écriture, de la connaissance de l'environnement, du sujet, hein, de la DGSE, de comment ça fonctionnait, que les gens n'étaient pas au courant de. Il y a quand même le fantasme de l'espion. Alors le fantasme de l'espion très réaliste là, parce que c'est vrai que entre autres mon personnage n'est vraiment pas proche de James Bond, ça c'est clair. Et je crois que les gens ont aimé aussi la précision de l'écriture et chaque personnage a une personnalité très marquée aussi. Donc je crois que c'est un ensemble. Et voilà.
Bon, voilà. Écoutez, on va attendre. En attendant, on va lire, évidemment. Elle aurait pu faire la promo avec vous, d'ailleurs, votre femme.
Ah ben écoutez, c'est ce qui se passe un peu, hein, finalement.
Ah parce oui, que, c'est vrai qu'on en parle beaucoup d'elle.
Elle est là. Oui, tout à fait.
C'est elle qui écrit. Ma femme écrit. C'est le premier roman de Jonathan Zakaï. Il y en a déjà un autre en préparation.
Oui, tout à fait.
Ah oui. Donc en fait, ça y est, c'est une autre voix qui s'ouvre à vous là.
Ben écoutez.
Il est sur quoi, celui de.
Oh, j'en parle. C'est un peu tôt, mais très différent, très surprenant, je pense que au moins, ça c'est sûr.
Il n'a pas fini de nous surprendre. Merci, Jonathan Zakaï. Ma femme écrit. Le roman est sorti aujourd'hui.